Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors, en ce mois de novembre, on arrive à la période où on cueille les olives sur les arbres. Du coup, c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de l'olivier. L'olivier, une culture qu'on trouve particulièrement en Garrigue. Et pour parler de ce sujet, on a aujourd'hui comme invité Jean-Marc Mounet, président de l'association des olivettes du pays de Nîmes. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour à tous.
Alors Jean-Marc, peut-être avant de commencer, tu peux peut-être te présenter et nous expliquer un peu comment tu es arrivé à ce sujet des olivettes et des oliviers.
Bien, je me suis intéressé paradoxalement aux oliviers au travers de la forêt. Je m'explique, la forêt est un lieu hautement inflammable en région méditerranéenne, et en faisant un travail spécifique, je me suis aperçu que le feu ne se propageait pas lorsque on coupait avec des olivettes des massifs boisés. Et ça m'a intrigué, et globalement, lorsqu'il y a un grand feu, le premier rang d'oliviers brûle, celui-là est considéré comme temporairement perdu, mais dès le second rang, il y a une protection qui se met en place, et ça ralentit considérablement l'avancée du feu. Vous dire qu'en plantant des oliviers, il n'y aura plus de grands feux en Garrigue, je ne peux pas le dire, mais c'est un frein notable. Donc je suis venu aux oliviers au travers de la protection des populations contre le risque incendie de forêt dans le Gard et en particulier sur la commune de Caveyrac.
D'accord, ok. Et donc du coup, on va parler aujourd'hui de l'olivier, un arbre hautement symbolique, notamment dans nos territoires méditerranéens et nos territoires de Garrigue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu justement sur un petit peu plus sur cet arbre ?
Oui, l'olivier est un arbre absolument extraordinaire qui a la particularité, de même que le figuier, tu constateras que c'est un arbre méditerranéen aussi essentiellement, de ne quasiment jamais mourir. Je m'explique, un olivier peut sembler mort, mais sa souche qui est sous terre peut repartir relativement facilement. Donc il y a une grande chose à savoir, c'est pour ça, je pense que cet olivier méditerranéen, berceau essentiel autour de la Méditerranée, se trouve être devenu le symbole de la paix, le symbole du renouveau et également le symbole de la persistance, y compris dans des moments difficiles. L'olivier, en tant que tel, évidemment, est un arbre qui est utile du tout au tout. Son bois est un bois exceptionnel en œuvre secondaire. Son bois également peut être travaillé sur des objets divers, d'usage courant. On a également, bien sûr, la possibilité d'en tirer ce que le but premier pour beaucoup, de l'huile et des olives de bouche, plus des produits transformés. Mais également, il y a un gros intérêt sur la feuille et le branchage secondaire, qui sont pourvus d'éléments de richesse qui enrichissent les sols. C'est également un très bon assermentant.
D'accord. Donc l'olivier ici, on est en France méditerranéenne, on est quand même un petit peu au nord de la zone de répartition de l'olivier qu'on va fortement retrouver tout autour du bassin méditerranéen, en Espagne, en Afrique du Nord, en Grèce, en Italie. Par contre, ici, à cette limite, on voit aussi que la culture de l'olivier a une certaine fragilité. On pense notamment aux épisodes de grand gel qui a pu y avoir.
Oui, l'olivier est un arbre qui résiste à tout, sauf à ce qui le tue, comme c'est une parabole que j'aime beaucoup, parce que ça correspond à la vérité. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour arriver à liquider physiquement un olivier. On a vu des arbres dans le gel de 56, qui est le plus célèbre, mais à moins 20, moins 25, moins 27, je crois, avait été enregistré sur fond vieille, et c'est pas un lieu réputé pour la rigueur de son climat. Donc on peut avoir ici en Piémont-Cévenol, on peut avoir effectivement un peu plus de température basse que ce que l'on en aura en vallée du côté de Beaucaire par exemple, ou dans d'autres endroits du Gard et d'ailleurs. Mais L'olivier présente une structure telle qu'il est susceptible de repartir spontanément. Évidemment, si l'homme l'aide, ça se fait beaucoup plus facilement.
Alors, on a vu dans l'histoire que le gel de 56 n'était pas le seul. Il y a eu d'autres époques, à peu près un peu chaque siècle. Mmh. Il y a des grands gels qui font que, justement, les populations d'oliviers dans nos régions ont tendance à fortement reculer. Puis, elles reviennent petit à petit. On a notamment beaucoup d'oliviers dans la région autour de Nîmes, mmh. Qui étaient fortement exploités. D'ailleurs, il me semble que sur Caveyrac notamment, on retrouve ces traces des exploitations de l'olivier enfouies dans les garrigues.
En forêt. La nature a horreur du vide, c'est une évidence. Et une terre qui n'est plus cultivée par l'homme, serait-ce un verger d'olivier, au bout d'un certain laps de temps, est reprise par la forêt. Ce terme de repris est tout à fait significatif. Pour autant, l'olivier et d'autres espèces, mais restons sur l'olivier, s'adaptent et se met à fonctionner d'une manière végétative, réduit évidemment sa production de fruits, puisqu'il n'est plus utilisé dans ce cadre-là, et la main de l'homme n'intervient pas. Pour autant, on a fait un travail sur la commune de Caveyrac. J'espère que ce travail sera amené à terme, puisque maintenant je ne suis plus aux affaires, sur la commune de Caveyrac. On a trouvé, en faisant des recherches avec les cabinets forestiers, avec les agronomes, on a trouvé des souches anciennes qui sont encore vertes, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc on sait qu'on peut repartir, et ça pourrait permettre effectivement de protéger le village aussi. Donc une qualité de l'olivier.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre sur cette thématique de l'oléiculture en garrigue. C'était Rio Ancho de Paco de Lucía. On est toujours sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade, avec Jean-Marc Mounet, président de l'association des Olivettes du Pays de Nîmes. Alors, on va revenir un petit peu sur cette question de l'oléiculture en Garrigue. Alors, dans notre région, l'oléiculture a toujours eu une place importante, souvent plutôt comme une activité complémentaire à d'autres activités qui pouvaient se faire, d'autres activités d'agriculture, d'élevage. Mais on a remarqué que la culture de l'olivier se perpétuait aussi, malgré les grands changements, on va dire, d'activité dans ces régions-là. Et de nombreuses personnes ont encore une olivette, la petite olivette, dans laquelle on va récupérer ses olives. Alors Jean-Marc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce phénomène des olivettes dans notre région des Garrigues ?
Eh bien, les olivettes et l'olivier, c'est partie prenante, effectivement, du paysage. Donc, tous les gens qui sont soit natifs, soit qui viennent habiter dans notre région, que l'on qualifie de belle, se rendent compte très rapidement en promenant qu'ils voient des vignes, des oliviers et des bois. Et forcément, soit ils ont déjà une olivette, ce qui peut se produire pour les autochtones, soit ils construisent ou ils récupèrent, ils retapent une maison ancienne, etc. Et ils ont envie de mettre un olivier dans leur... Ça part de là, hein, un olivier dans leur 800 mètres carrés de terrain, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des municipalités de manière à faire en sorte que l'on plante des oliviers qui sont là, à mi-chemin entre l'agrément, l'arbre communautaire et communal, et puis la propriété privée de la commune. C'est très important parce que tout ce qui se tourne autour de l'olivier, tout ce qui va se faire, d'abord c'est un arbre qui est apaisant en tant que tel, c'est un arbre qui renvoie la lumière fort bien, et c'est pas notre ami Daniel Guillaume, le photographe d'Aujargues, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui me contredira. Et également, on a des olivettes très très parfois avec un verger qui se résume à quelques cèpes, hein. On est sur 4, 5, 10 oliviers, et puis on a beaucoup d'amateurs, à tel point que la production actuellement d'olives, et là je ne trancherai pas ce débat parce que j'ai des amis chez les professionnels et des amis nombreux également chez les amateurs, eh bien on considère qu'une belle partie de la production se fait aussi de la production d'huile, de produits finis ou d'olives de bouche se fait par les amateurs. Je resterai discret sur le pourcentage puisqu'apparemment il y a de grands débats. Donc peu importe, mais il faut que les auditeurs sachent que l'oléiculture amateur est hautement recevable.
D'accord. Et d'ailleurs, on voit notamment dans notre région... toutes ces petites parcelles d'oliviers, toutes ces olivettes qui sont très liées à un autre type de patrimoine, un patrimoine plutôt en pierre sèche.
Absolument. La pierre sèche, l'olivier sont intimement mêlés dans nos milieux, et en particulier on le voit également par ici où la faille, c'est pas une vue de l'esprit, c'est beaucoup utilisé pour l'oignon doux, entre autres dans la vallée de Valerogue, mais on sait qu'on a un rapport avec la pierre. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir ces terres, il faut lutter contre l'érosion, et le fait de mettre muré de terre permet de stabiliser la terre qui est derrière. L'olivier est un arbre qui a une jolie poussée racinaire, mais a priori, un muret, ça s'entretient comme un olivier, ça se taille et ça s'entretient également. Donc si la main de l'homme intervient, en principe, ça ne bouge pas. Et on voit des terrasses qui sont des renforts qui souvent s'assoient sur le rocher, puisqu'en particulier dans la région de cet endroit, je sais ici, je connais un petit peu moins, on a une... Et dans les Garrigues nîmoises, bien sûr, on a du rocher souvent à fleur de terre. On se demande parfois, d'ailleurs, où va chercher l'olivier sa nourriture. Mais il faut croire qu'il la trouve.
D'accord. Et effectivement, on voit également tout ce qui est des capitels qui représentent beaucoup cette phase, notamment fin 19e siècle, où il y avait des petits agriculteurs qui, des fois, travaillaient aussi à l'usine, à la ville, et avaient une olivette, partaient à cette olivette et construisaient ces capitel, ces cabanes en pierre sèche, pour y installer leur matériel. Parfois même, il y avait des capitels dédiés au stockage des olives.
Qu'est-ce qu'une capitelle ? Une capitelle, c'est un abri. Un abri fonctionnel, fait par un agriculteur amateur, ou généralement, le plus souvent amateur, mais quelques professionnels également. Et cet abri peut servir à s'abriter soi-même en cas de mauvais temps, être surpris au champ. En particulier, il y a quelques dizaines d'années, les gens ne rentraient pas déjeuner le midi chez eux, il n'y avait pas de voiture. Le temps de trajet avec les chevaux également, c'était important. Donc, il fallait qu'on puisse, sauf le respect que je vous dois, casser la graine quelque part, et mettre quelques outils à l'abri, effectivement, et éventuellement pouvoir se réchauffer ou se mettre à l'abri d'une averse. Ça, c'est le premier point. La capitelle, il faut considérer que c'est un abri d'agriculteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, dans les anciens temps. Maintenant, évidemment, tout ça est un peu tombé en désuétude, mais heureusement, il y a des associations fort pertinentes, comme le Dolmen à Nîmes, comme Pierre Sèche et Garrigue à Cavérac, et d'autres que j'oublie, ne m'en tiendront pas rigueur, qui se font un point fixe sur toutes les choses qui touchent la pierre sèche, son utilisation directe ou indirecte. Outre le fait que la pierre sèche, c'est beau, c'est extrêmement efficace. Un mur en pierre sèche laisse passer l'eau, il n'y a pas de souci d'infiltration et il tient très très bien la terre. Donc la pierre sèche, l'olivier sont intimement liés. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que l'agriculture et la pierre sèche, ça marche très bien. On voit dans quelques régions du Sancerrois en particulier, on voit ici dans la vallée de Valerogue pour l'oignon doux des Cévennes, on voit très bien l'importance qu'a la construction à pierre sèche.
D'accord. Et donc, on va voir aussi l'autre aspect, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est aussi l'oléiculture professionnelle. Il y a une oléiculture bien vivante dans notre région. Peux-tu nous en dire quelques mots ?
Alors, l'oléiculture professionnelle, c'est une oléiculture qui est réalisée par, le plus souvent, des agriculteurs qui ont plusieurs cordes dans leur arc, puisqu'on sait qu'en agriculture, on ne peut jamais compter, rien n'est sûr, et en quelques instants, quelques jours, une récolte qui semblait être aboutir à 15 jours suivants, eh bien, mon Dieu, est ravagée par un phénomène climatique ou un phénomène thermique. Donc, les oléiculteurs, le plus souvent, sauf s'ils sont eux-mêmes transformateurs et qu'ils travaillent le produit de bouche pour faire qui de la tapenade, qui de l'olive de table, etc., ont plusieurs cordes à leur arc, et il s'est fondé, il y a maintenant une dizaine d'années, a été obtenu par le syndicat de l'olive de Nîmes, a été obtenu le qualificatif d'AOP, et ça c'est très important, et ça permet d'avoir une reconnaissance qui, en fonction des productions qu'on a, est commercialement extrêmement intéressante.
Donc c'est AOP, appellation d'origine protégée.
C'est ça.
Voilà, donc pardon, qui est autour de l'huile d'olive et de l'olive.
Et de l'olive de bouche, dite olive de table également.
Hein. Quelles sont les variétés là qui
Alors, essentiellement sur l'AOP, si vous voulez sortir une huile en AOP, il faut qu'il y ait 70% d'olives dites de picholine. Okay, en dehors de 70% à 100%, il n'échappera à personne qu'à 30% de liberté, mais sur certaines variétés, alors il y a la négrette, il y a la corniale, il y en a de plusieurs autres, mais on peut faire il y a deux, trois variétés complémentaires qui sont utilisées, et puis il y a des variétés dites historiques qui peuvent l'être également. Hein. On peut également sortir une huile dite monovariétale, et là, évidemment, on comprendra qu'il s'agit d'une huile faite, par exemple, qu'avec que de la picholine, ou avec que de la négrette, plusieurs souches.
D'accord, donc la picholine, c'est vraiment la variété gardoise d'olive qui a été mise en avant justement par cette AOP. Alors pour nos amis héroletés aussi, il faut savoir que dans nos garrigues, il y a aussi une variété particulière qu'on appelle la Luc,
qu'on trouve
également.
Oui, tout à fait, j'étais hier en visite, ou avant-hier, pardon, j'étais en visite à Loulibo, à Bise-Minervois. Bise-Minervois, c'est dans l'Aude, mais traite beaucoup, triture beaucoup d'olives qui arrivent directement de l'Hérault, effectivement, tout à fait. Il y a plusieurs. La Luc est une olive qui est un petit peu plus grosse et un peu plus charnue parfois, si j'ai bien saisi, que la Picholine. Mais la Picholine a de grandes qualités. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'AOP sur l'olive, l'huile d'olive et l'olive de Nîmes, bien, c'est une AOP qui a franchi le Vidourle, si je peux m'exprimer ainsi, puisque sur les 130 communes porteuses de l'AOP, qui ont droit à porter AOP sur leurs produits, fruits ou trituration et huile finie, il y a beaucoup de communes héraultaises. Ce que très peu de gens savent d'abord, très peu de gens savent que l'huile d'olive de Nîmes peut être héraultaise.
D'accord. Alors on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Julie, la petite olive, rêvait de voyager, mais elle était captive d'un rameau d'olivier. Elle tannait ses copines à longueur de journée, avec les Philippines et Saint-Germain-des-Prés.
C'est bon Julie, arrête de nous les briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un panier. On est né pour faire de l'huile d'olive. C'est comme ça, c'est la nature et c'est très bon avec les endives.
Julie, la petite olive, l'entendait pas de cette oreille. Comme elle avait la verve vive, elle prit à partie le soleil.
Vous, monsieur, vous tournez près de 24 heures par jour. Le monde, vous le connaissez, vous en avez déjà fait le tour. Moi, je suis prisonnière de cette grosse branche en bois. Dites-moi donc ce qui se passe sur Terre. Oh oui, s'il vous plaît, racontez-moi.
C'est bon, Julie, arrête de les lui briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un saladier. On est né pour faire copine avec les endives. Le soleil, lui, sans tapis, connaît rien, l'huile d'olive.
Mais l'astre du jour, par sa requête, fut ému et lui dit, rayonnant d'amour,
je vais commencer au début.
Au bout d'une dizaine de mois, il finissait le préambule, le Big Bang et tous ces trucs-là, la naissance des premières cellules. Et Julie l'écoutait, passionnée, attentive, ouvrant grand ses oreilles pour n'en point perdre un mot. Mais hélas, la vendange tardive des olives coupa leur entretien avec tout le rameau.
Cette fois, Julie, c'est terminé. Allez, monte dans le camion qui nous emmène chez Puget. T'es aimé pour faire de l'huile d'olive. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu dis bonjour aux endives.
Mais Julie ignorait que le soleil, ce gros bavard, de lumière l'avait gavé pendant qu'il contait ses histoires. Et arrivé au pressoir, le propriétaire agricole eut besoin d'une chaise pour s'asseoir et s'écria:
oh, la bestiole! Crénon le nom, fille idiot, j'hallucinant. Par les baloches du connu, j'ai dû abuser du litron. Cette olive, on dirait que c'est la couille de Godzilla.
Va m'en falloir des endives pour me contenter ce bête-là.
Et Julie, que la joie inonde grâce au miracle de la nature. C'est à P4 tour du monde dans les salons de l'agriculture.
Dans les salons.
Dans les salons.
Dans les salons.
C'était Les Vrigles avec Julie la petite olive. Alors Jean-Marc, on se retrouve là pour parler maintenant du site remarquable des olivettes du pays de Nîmes. Qu'est-ce que c'est qu'un site remarquable du goût ?
Alors un site remarquable du goût, c'est une entité qui est agréée par quatre ministères. Et croyez-moi, c'est pas simple. La culture, l'agriculture, le tourisme. J'oublie systématiquement le quatrième. Et ce site remarquable du goût, lorsqu'on a l'obtention, il faut impérativement charger dans le cahier plusieurs éléments. Il faut un produit emblématique. Ça, c'est indéniable. Un et un seul. Ensuite, il faut avoir une possibilité d'accueil pédagogique et d'initiation, de dégustation, puisqu'on est sur, pour les sites remarquables du goût dans leur ensemble, on est sur des produits de bouche. Donc il faut que ceci soit fait. Le ministère de la Culture est absolument à cheval sur l'intérêt des paysages et de l'apprentissage, de la lecture des paysages qui sont concernés par le site remarquable du goût. Et enfin, il faut qu'il y ait une intégration par la population, qu'elle soit directement liée à la production ou absolument pas liée à la production, qu'il y ait une implication de la population de manière à ce que l'accueil du touriste, du visiteur, de la personne qui a la gentillesse de venir nous visiter, eh bien, soit la plus complète possible. Ça commence par le sourire et le fait de dire bonjour.
Donc il existe plusieurs sites remarquables du goût en France et dans le Gard.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples ?
Alors, c'est extrêmement varié. On est actuellement sur une cinquantaine de sites remarquables du goût à l'échelon français. Sur la région Languedoc-Roussillon, qui a apparemment été appelée à perdurer, il y a un certain nombre de sites. Il se trouve qu'ils sont gardois pour la majorité d'entre eux. Il y a les olivettes du pays de Nîmes, basées sur l'olive de Nîmes, bien sûr. L'oignon doux des Cévennes, je ne vous ferai pas l'affront de vous donner le produit remarquable. Et puis, il y a le taureau de Camargue. Le taureau de la viande de taureau, bien entendu, qui est un AOP également. Sur l'Hérault. Sur l'Hérault, nous avons un site remarquable du goût qui est sur Bouzigue, qui est en cours de renaissance, hein, qui a été un petit peu quelques aléas, et je pense que nous allons pouvoir, au niveau du conseil d'administration dont je fais partie, de la Fédération nationale des sites remarquables du goût, pouvoir réactiver cette action-là. Évidemment, sur Bouzigue, ça tombe, ce sont bien sûr les huîtres et les moules de l'étang de Thau, hein, ça va de soi. Il faut donc avoir à la fois un produit de qualité, mais également toute une structure derrière pour devenir site remarquable du goût. Et cette structure, elle implique, y compris les habitants du village. J'étais en visite prospective sur le site de Bise-Minervois, dont j'ai parlé tout de suite. Et bien sûr, Bise-Minervois, il y a quand même un village qui fait 1100 habitants et 11 restaurants. Ça vous donne déjà un ordre d'idée. Alors ne me faites pas dire que si on n'a pas un restaurant pour 100 habitants ne pourra pas être agréé, loin de là, mais c'est très important qu'il y ait une volonté de tous de travailler ces produits-là et d'initier, d'avoir une démarche pédagogique.
Alors le site remarquable des olivettes de Nîmes, il s'étend sur quelle surface ? Il s'appuie sur quelle structure, justement ?
Alors, il s'appuie sur la structure du pays garrigue costière de Nîmes. Il est basé à un extraordinaire équipement que je vous recommande fortement de visiter, qui est la maison de la garrigue et de l'olivia Marguerite. Hein, c'est la sortie Nîmes-Ouest.
Est,
tant pour moi. Je prends tellement rarement l'autoroute que je me suis mis les pieds dans les rayons. Donc, sortie Est, là, vous allez voir, c'est exceptionnel, c'est extrêmement bien fait. L'accueil est charmant et à quelques brassées, vous avez le site de la Combe des Bourguignons, qui est un site qu'on a redécouvert, et je reviens donc sur mon propos préalable, suite à un incendie de forêt, puisque le site avait été complètement repris par la forêt, et la mairie de Nîmes, grâce soit rendue à l'office patrimonial de Marguerite et à son maire William Portal, qui a saisi d'un malheur, il faut faire un bonheur, et il a saisi cette opportunité-là, et ce site est maintenant complètement restauré, c'est absolument magnifique, et là vous verrez ce que c'est qu'un béal, vous verrez ce que, alors en Cévennes on connaît, mais y compris en Garrigue, le principe était le même, il y a peu d'eau, la gestion de l'eau c'est un souci permanent, les restanques, les failles, pour retenir les oliviers, c'est important. Le croisement des espèces également. Et puis surtout, la complétude, comme on dit du côté de Poitou-Charentes, la complétude qu'il faut entretenir entre les espèces. La biodiversité et l'olivier, c'est également un axe fort.
D'accord. Et donc, il y a une association aussi, l'association des olivettes du pays de Nîmes, qui porte un peu la dynamique.
Voilà. L'association des olivettes du pays de Nîmes est une association qui regroupe à la fois des associations qui s'intéressent à la nature, à la pierre sèche, des transformateurs, des producteurs d'olives, des transformateurs comme des triturateurs, des confiseurs, des moulins à huile. Et puis également des gens qui sont dans l'aspect culturel, c'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure du photographe Daniel Guillaume, vous avez également des artistes, vous avez beaucoup, beaucoup de restaurateurs, bien sûr, puisqu'il faut savoir travailler les produits, et on peut manger facilement des olives vertes de Picholine, sans souci. Par contre, travailler avec une huile d'olive, il faut connaître un certain nombre de choses. C'est une huile qui est extrêmement saine, comme chacun sait, et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite.
Et quelles sont les actions que porte cette association ?
Alors, c'est un soutien permanent sur les associations autour de la pierre sèche. C'est un soutien également permanent autour de l'oliculture amateur. Nous sommes nous avons en notre sein, dans notre conseil d'administration, l'association Promolive. L'association Promolive est une association exceptionnelle qui regroupe justement des petits producteurs amateurs qui viennent de monter en collaboration avec le CAT, maintenant il faut dire ESAT, des chênes verts à Nîmes, deux moulins, dont un qui peut traiter des toutes petites quantités, un autre un peu plus, ce qui fait que vous pouvez faire votre huile dans ce moulin-là, évidemment à condition d'être membre d'association, ça va de soi. Mais c'est tout à fait unique, c'est une expérience qui marche bien, qui donne de bons résultats. Les gens sont ravis, il y a des bénévoles et puis le soutien des permanents de l'ESAT, ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc encore une fois, l'huile d'olive, c'est une question de culture, c'est une question d'amour, et un olivier vous rendra toujours au centuple les soins que vous lui aurez prodigués.
Et donc, du coup, l'association porte également l'organisation de la fête de l'huile de lavande. On s'écoute une petite musique et puis on en rediscute. Ah oui. c'était la danse de Zorba de Mikis Theodorakis. Alors, Jean-Marc Mounet, on disait à l'instant que l'association des Olivettes du Pays de Nîmes organisait la fête de l'huile de l'Avent, qui va bientôt se dérouler. Qu'est-ce que c'est que cette fête ?
Alors, la semaine de l'huile de l'Avent, c'est une fête qui, bien entendu, se situe après la récolte des olives, qui nous permet de présenter au public une huile nouvelle avec les caractéristiques de fraîcheur et d'ardence de côté un peu fort, souvent, qu'a cette huile. La semaine de l'huile de l'Avent est co-organisée avec le syndicat de l'AOP, bien sûr, et grâce aux contributions du pratique du pays garrigue costière, de ses agents, des financements qui nous arrivent, en fait, tout au moins on espère qu'ils arriveront, parce qu'apparemment il y a un petit peu de retard, du conseil général du conseil régional de Nîmes Métropole. Ce qui est intéressant dans la semaine de l'huile de l'Avent, ça reprend l'idée que j'ai avancée tout à l'heure, c'est-à-dire on va mêler la culture avec l'agriculture, avec la renaissance des oliveraies. Il y a dans le programme que je vous incite à charger d'ailleurs sur le site olivette-nîmes.org. Là, vous aurez le programme complet. Il y a une intéressante visite sur une restauration d'une oliveraie qui a été faite par un amateur, qui est un amateur passionné, quasiment un fou furieux, qui passe l'essentiel de son temps, quand il n'enseigne pas, les mérites de la physique et de la mathématique à ses élèves. Il passe son temps à restaurer son olivette. Alors, il y a de multiples choses. Il va y avoir en particulier une soirée méditerranéenne de l'olivier dans laquelle on va faire une large part à la poésie et à la musique. Et nous allons mettre en œuvre, nous espérons aboutir, à la fois une présentation de poèmes ou d'extraits de littérature dans une langue originale, par exemple le grec, l'italien, l'espagnol, avec évidemment une traduction française et une animation musicale par Rabbi et Scotty. Donc ça, c'est une des choses. Mais il y a de multiples activités. Et je tiens en particulier à dire tout le plaisir que j'ai d'accueillir cette année dans le programme de la fête de l'Avent le restaurant d'Omessas, qui est la filature d'Omessas, dans le moulin que je pense dans cette région vous connaissez bien. Le samedi 29 novembre, je vous conseille de retenir vos places parce qu'elles ne sont pas illimitées. À partir de 19h30, il y aura un repas composé bien sûr autour de produits locaux travaillés à l'huile d'olive et il y aura une représentation théâtrale en même temps sur le texte magnifique de Jean Giono, La vie d'Amandine, et c'est une comédienne qui présentera cette partie artistique, c'est Madame Sabra Ben Arfa, c'est une représentation théâtrale complète. Je vous conseille, là aussi, puisque c'est une manifestation exceptionnelle, de réserver le plus rapidement possible au restaurant La Filature, c'est d'un prix tout à fait abordable, pour une soirée qui unit à la fois les plaisirs du palais et les plaisirs du théâtre.
Alors, les dates de cette semaine de l'huile de l'Avent ?
Alors, la semaine de l'huile de l'Avent, c'est du 29 novembre au 7 décembre.
D'accord, donc dans plusieurs lieux, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que le 8 décembre, il y a également une fête de l'olive à Corconne.
D'accord. Donc, du coup, à ne surtout pas rater la semaine de l'huile de l'Avent, hein, du 29 novembre au 7 décembre, dans plusieurs lieux du département. Donc, pour avoir le programme précis, vous pouvez aller sur le site internet www.olivette-nîmes.org ou par téléphone au 04 66 20 54 78 pour connaître le programme précis, très riche d'ailleurs, de cette manifestation. Alors merci beaucoup Jean-Marc pour cette émission et du coup on va se quitter en musique avec Rodrigo et Gabriela avec leur musique Tamakum.